את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויהי, סופו דונק, ושלח פרעה, לורסקה פרעה א אנבויה, דאטרה שלח, ליטרלמנט, אנבויה, לפופל, שלח את העם, סי לה רפונס, השם לו אדי, שלח את עמי, לט מי פיפל גו, אלור אילור אדי גו. Allez-y. Et ça s'appelle Shalach Paro. Il les a envoyés, il les a laissés partir, ils ont traduit dans le stone. Et maintenant, voilà, Paro les laisse partir. Donc c'est plus Paro le maître. Donc on a l'impression qu'il était le maître jusqu'au moment où il les laisse partir. Et que c'est comme si c'était une initiative de Paro de les laisser partir. Mais ce n'est pas l'initiative de Paro. C'est Hachem qui a obligé Paro à les laisser partir. Dans le texte, on a l'impression, quand on le lit comme ça, que c'est une initiative de Paro. Mais tout de suite, on nous dit comment Hachem ne les a pas guidés. Ou plus exactement, ce qu'Hachem n'a pas fait. On ne nous dit pas par où il les a conduits, on nous a dit qu'il ne les a pas conduits, semble-t-il, par le chemin standard. Il aurait été de passer à travers les Plishtim, c'est-à-dire de longer le littoral. Ça aurait été le chemin le plus court, le plus rapide à être proche, comme il était proche. Pourquoi il ne l'a pas fait? Qui amar Elohim. Vous voyez, a priori, nous, on apprend dans la Haggadah que c'est Hachem, c'est-à-dire le tétragramme, qui a fait sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Ici, on est en train de parler en termes d'Elohim. Qui justement Elohim a dit Pen inachem ha'am, de peur que le peuple inachem, il change d'avis en quelque sorte, lorsqu'ils vont voir qu'il faudra faire une guerre, veshavu mitzrayma, et ils vont décider que non, c'est trop effrayant de faire la guerre, ils vont décider de retourner en Égypte. Rashi s'arrête sur l'onaham, l'onagam. Il ne les a pas dirigés. Comme l'ech neche et ha'am, plus bas, va dirige le peuple. Ou bien beit alechachat en kreotam, ou tar, etc. Ki karov hu, car ce chemin-là aurait été le plus proche. Et du coup, parce qu'il est proche, ונוח לשוב באותו דרך למצרים. Il est facile de revenir sur ses pas dans ce, si on a pris ce chemin-là pour retourner en Égypte. ומדרשי אגדה יש הרבה. Beninachem donc. Même si, en fait, ils ne vont pas retourner, mais ils vont seulement regretter. Ils vont regretter d'avoir choisi de sortir. Ce regret-là, il va annuler toute la progression spirituelle qu'il y avait eu jusque-là. Chazal disent, vous savez, quand on explique la tchouva, alors on s'étonne, on trouve effectivement extraordinaire qu'on ait la possibilité de revenir, qu'on ait la possibilité de réécrire, de faire comme si on nous met dans la situation où on aurait vécu ce qu'on a fait d'une certaine manière, de la mauvaise manière, comme si on l'avait fait de la bonne manière. On met toujours ça en avant quand on parle de la possibilité de faire tchouva, etc. Mais il y a une règle générale que quand Hachem fait quelque chose dans le monde, si ça va dans un sens, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Ça veut dire que si on regrette les mitzvot, on perd aussi le bénéfice de la mitzvah. C'est une Gemara dans Masechet Kiddushin qui dit à Toré, à la Rishonot, mais à Bet est à Rishonot. Que celui qui regrette les mitzvot qu'il a faites, il en perd le bénéfice. Exactement comme dans le bon sens, on peut aussi annuler et revivre, ou plus exactement, se trouver dans la situation dans laquelle on serait si on n'avait pas fait ces mitzvot qu'on a faites. Et donc ici, même s'ils ne font pas demi-tour, mais simplement d'avoir pensé, birotam, quand ils vont voir ça, ils vont regretter. L'enachem, comme on dit, à Kadosh Baruch Hu, à regretter. Ils vont regretter. Donc, à la limite, si t'es simplement ils se disent, ben, si on avait su, si j'avais su, j'aurais pas venu, quoi. Donc, si on avait su que il fallait faire une guerre, ben, on serait pas sorti. Mais maintenant qu'on est là, on va y avancer. Mais de cette pensée-là, regretter la sortie, c'est pas simplement. Finalement, on n'avait pas tous les éléments et on a décidé sans connaître tous les éléments. Non. On va perdre. Qu'est-ce qu'il veut? On va perdre le bénéfice spirituel. Et donc, c'est évidemment très grave. Et donc, Hachem ne veut même pas qu'ils aient cette pensée. Vaihi, c'est toujours en la chambre de Tsar. C'est une expression qui annonce quelque chose. Et donc, il faut regarder. C'est un peu compliqué. Ce jour-là, a priori, ce devait être un jour de joie. Probablement le jour de la plus grande joie pour le clan Israël. Se trouver libre, sortir d'Égypte, c'est absolument extraordinaire. Et donc le texte ici nous dit, attention, il y a quelque chose de douloureux qui se mêle à cette joie. La douleur, c'est quoi? C'est ce qui est écrit. Akadosh Baruch Hu ne les a pas guidés sur le chemin le plus court. Donc c'est comme si Akadosh Baruch Hu s'était dit, en fait, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas les guider à travers le pays des Plishtim pour aller directement en Eretz Israël. Kikarov ou l'Arzor le Mitzrayim. Parce que c'est trop proche. On peut trop facilement retourner. Il y a beaucoup de caravanes, etc., qui vont dans les deux sens. C'est pour ça que c'est marqué Kikarov ou. Mais il est bien clair que les Bnei Israël ne vont pas décider d'eux-mêmes de retourner en Égypte. C'est juste que Pen Inachem Aham, Birotam Milchama Beshavu Mitzrayma. Quand les Bnei Israël vont voir les Plishtim qui vont venir à leur rencontre et qui vont leur faire la guerre. À ce moment-là, ils vont regretter d'avoir passé par là. Et ils se demanderont, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte pour se faire massacrer par les Plishtim. Ce ne sont pas les soldats. Nous, on ne sait pas comment faire la guerre. On n'a jamais fait la guerre. On est esclaves. Et donc, voilà, on va retourner en Égypte. Il vaut mieux pour nous de retourner en Égypte plutôt. Ça ne peut pas fonctionner. Bon, c'est pas grave, non, mais. Excusez-moi, je vais regarder ce qu'il me veut là. Il me raconte que c'est pas le bon microphone. C'est comme ça, c'est mieux. Vous entendez? Oui?
Très bien, très bien.
Peut-être que là, ça. Non.
Elle dit qu'elle entend très bien.
Oui, là, c'est bien.
Oui, mais
J'ai
nous, on ne
entendu.
voit
Non,
pas.
parce que c'est mon ordinateur, il disait que mon speaker n'était pas le bon. Bon, ça c'est bon, mais le problème, je ne peux pas le faire. Je n'arrive pas à aller. Non. Désolé.
Myriam, c'est
Désolé, on
moi.
ne vous voit pas sur le grand écran parce que je n'arrive pas à l'afficher. Bon, ça fait rien. Vais essayer. Il va le remettre. Mais...
Si on les voit pas.
Moi, je les vois, mais vous ne les voyez pas. Donc, sur mon ordinateur. Juste que ça ne va pas sur l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Ah, un instant, peut-être ça. What happens? Choose. C'est bien de choisir, mais. Bon, comme ça va. Si on met la room caméra, ça va. Bien. Mais en vérité, on doit poser la question, qui dit qu'ils vont craindre la milchama? Pour penser, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a qu'à faire qu'il ne craigne aucune guerre? Quand Yaakov Avinu a eu peur à la suite du massacre de Shrem par Shimon et Lévi, c'est marqué Vahi. Khatat Elokim, Aleharim, Asher Sivotehem. Bon, les villes alentours ont eu peur. Yaakov avait dit, mais ils vont nous massacrer, les gens. Ils vont entendre qu'on a massacré du Shrem. Toutes les villes alentours vont nous massacrer. C'est pas vrai. Hachem a fait en sorte que les villes alentours ont eu peur. Et ayant peur, ben, ils n'ont pas osé attaquer. Pourquoi est-ce qu'Hachem ne ferait pas ici que les Plishtim n'osent pas attaquer? Peut-être les Plishtim ne se présenteront jamais pour faire la guerre. Donc là, on voit que finalement, c'est sûr qu'il y aura la guerre. Ça prendra 10 ans, ça prendra 20 ans, ou 100 ans. Mais ils vont faire la guerre. Il y a un certain limoud qu'on doit apprendre d'ici. Il faut prendre une certaine leçon de ce qui est dit ici. Laissez entrer Madame Charlie. Bon, ça va, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert.
C'est encore un test qu'HM fait au Nissan.
On va voir. On peut dire que c'est un test, mais... Voilà. Que même si Im takum alay milchama enen yare. Comme dit David Hamelech. Même si effectivement la guerre se présente à moi, je ne crains rien. Pourquoi? Je dis Hachem Ish Milchama. La guerre, c'est Hachem qui la gère. Et donc, je ne crains personne. Quand Goliath est arrivé, avec toute son armure et toutes ses armes, pour s'opposer à pour faire la guerre contre David. Et quand il a vu ce petit jeune homme là, avec sa fronde, qui avait aucune idée des lois de la guerre, des lois de comment on fait la guerre, il lui a dit, Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec une fronde? Tu viens me battre avec des bâtons? Et David lui a répondu, toi tu viens avec ton épée, avec ta lance, avec tout ton armement. Et moi je viens, Bechem Hashem Elok, ou Bechem Hashem Tzvakot, Elokei Maarachot Israël, Asher Chavavta. Je viens ici au nom d'Hachem, qui est le maître des armées, l'Elohim des multitudes d'Israël que tu as humilié là, dont tu te moques. David HaMelech a bien sûr compris qu'il est face à Goliath, le géant armé jusqu'aux dents. Mais il n'a pas eu peur. Parce qu'il avait confiance que Hachem ish milchama. Les barechev, les basusim, anachnu b'shem Hachem, toutes sortes de psukim. Mais il faut réfléchir un peu. Après tout ce qu'Hachem a fait pour le clan Israël, quand il les a fait sortir de Mitzrayim, tous les nissim, les choses extraordinaires qu'ils ont vues, a priori, il devait avoir confiance dans le Ribbono shel Olam, quoi, dans le maître du monde. Mais David Feinstein dit ici, je ne sais pas, si nous étions nous dans cette situation-là, est-ce qu'on aurait dit, nous avons suffisamment de preuves qu'Hachem est tout-puissant, c'est vrai, mais nous, on ne vit pas à leur époque. Donc, nous, on ne sait pas pourquoi ils n'en étaient pas, pourquoi eux n'étaient pas sûrs. C'est Hachem qui dit qu'ils vont avoir peur. Et donc nous, on peut regarder de plus près le verset. Dans le verset, c'est marqué « Vayi b'shalach paro et ha'am ». Et il pose la question que j'ai posée au début. Est-ce que c'est Paro qui les a renvoyés? Ce n'est pas Paro qui les a renvoyés, c'est Hachem qui les a pris. C'est marqué « Ki bechozek yad otsianu Hachem mi Mitzrayim ». Voilà, c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte avec sa main puissante, en fait. C'est pas Paro qui nous a renvoyés. Mais si on regarde toute la discussion, là, on voit que même après que Paro a bien vu qu'il ne peut plus les maintenir en esclavage et qu'il a été obligé de les laisser partir. Après tout, il a dit, Eni meshabet bachem od, aval bechot zot, Eni maniach lachem natset. C'est vrai que je ne peux plus vous maintenir en esclavage, mais je ne vous laisse pas partir. Qu'est-ce qu'aurait fait un être de chair et de sang dans une telle situation? On aurait manifesté sa force. On aurait montré, tu veux pas laisser partir, on va t'obliger.
Oui, se regarder.
On aurait dit à Paro, essaye seulement de m'empêcher de les prendre. Mais le Ribbono shel Olam n'a pas fait ça. Il a permis à Paro de décider par lui-même. Ad Kedekar, c'est marqué Vaï Beshalach Paro et Ta'am. Au point que le texte de la Torah dit, c'est Paro qui les a envoyés. Comme si Paro avait quelque chose à dire dans cette affaire. Comme s'ils pouvaient décider, je les renvoie ou je ne les renvoie pas. Et les Bnei Israël, ils ont eu peur de cela. Comme si les Bnei Israël ont compris que Hachem laisse Paro décider. Comme si Paro avait, tout se passe comme si Paro avait encore un certain pouvoir. Le texte qui dit Vahib Beshalach Paro veut dire que les Bnei Israël, voilà ce qu'ils ont vu. Ils ont vu Paro nous laisse partir.
C'est pas contradictoire avec la chaîne qui partie des deux parents. Parce qu'il
Non,
a fait la traversée.
ça c'est de facto, ça n'a pas d'importance parce que ça, c'est ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Mais le peuple, qu'est-ce qu'ils ont vu le peuple? Qu'Hachem a fait en sorte que il leur apparaisse que Paro décide. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'Hachem a fait comme ça? Alors j'ai déjà dit-il, plusieurs fois, que Akadosh Baruch Hu voulait qu'ils reçoivent des makot. Il voulait leur donner la possibilité de continuer de fauter. Mais finalement, c'est marqué, Ki bechozek yad, otziyanu Hashem et Mitzrayim. Donc finalement, on a bien vu que c'est Hashem qui nous a sortis de là. Alors, on peut poser, mais la question, mais quel est le chidouche? Est-ce que si on a un aveugle, qui ne voit pas que c'est Hachem qui le sort d'Égypte. Mais il faut regarder comment était la façon dont nous sommes sortis d'Égypte. Au début de Makat Bechorot, au début de la dixième plaie, Pasouk dit, Vatem lo tetsu ish mi petach beto ad boker. Hachem a dit aux Bnei Israël, vous restez chez vous, vous ne sortez pas de chez vous jusqu'au matin. Bien que Paro s'est levé au milieu de la nuit, qu'il a crié en direction de Moshe et d'Aaron, Kumu Tseu Mitochami, d'accord, allez-y, sortez, quittez, sortez de mon peuple. Et les Mitzrim et les Égyptiens, ils les poussaient à sortir le plus vite possible, puisque tant qu'ils restaient, il y avait des morts. Et ils voulaient que cette espèce de plaie de mort cesse. Néanmoins, les Bnei Israël ne sont pas sortis avant le matin. Mais le matin, ils ont dû sortir très très rapidement. Ils ont dû courir, sortir rapidement. Donc finalement, au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis dans ce qu'on appelle la Béhala. Voilà, c'est ce qui fait que certains commencent le Seder, Bibhilou, Yatsanu, Mimitsraï. On est sorti dans la presse quand on est sorti en Égypte, sorti d'Égypte. C'est comme ça qu'Hachem avait décidé que ça allait se passer. Ils sont sortis, Bechipazon. Ils sont sortis très vite d'Égypte. Ils sont pas sortis comme des de façon royale, quelque part, avec toute la pompe. Quelqu'un qui dit, ne me dis pas ce que je dois faire. Je sors comme je veux. Ils n'ont pas vu que Akadosh Baruch Hu les a sortis d'Égypte. Ils n'ont pas vu que c'était pas Paro. Il leur semblait que là, il y avait, pas de shalom, une certaine force matérielle, donc de Paro, qui les faisait sortir d'Égypte. Comme la chose dépendait de la volonté de Paro. C'est ça que nous dit le verset, Vahi Beshalach Paro et Ta'am. Comme eux, ils avaient l'impression que c'est Paro qui les a renvoyés, Paro par une décision prise par Paro librement. C'est pour ça que Velo Nacham Elokim Derech Eretz Plishtim, pourquoi? Kikarov vous, parce que c'est proche, ou Karov Midai la Klal Israël, Biyotam Nisharim Ima Dea Azot. Comme les Bnei Israël, ils étaient restés avec cette idée que c'est Paro qui les a chassés. Donc, c'est pas que les Plishtim vont faire la guerre maintenant avec eux. Mais il y arrivera un temps dans le futur où les Bnei Israël ne mériteront pas ce qu'ils méritent maintenant, dans l'instant. Et à ce moment-là, les Bnei Israël penseront, Peninachem. Il arrivera un temps où ils devront faire des efforts, ils devront faire la guerre contre les Plishtim, parce que Hachem ne sera pas Ishmilchama pour eux. Et ça, c'est arrivé à l'époque de Goliath. Tout le monde avait peur de lui. Les Bnei Israël, ils étaient paralysés par cette espèce de monstre. Personne n'était prêt à aller faire la guerre contre lui. Dans le futur, le clan Israël auront besoin de conquérir la terre d'Israël. Et évidemment, Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu faire en sorte qu'il conquiert la terre d'Israël de façon miraculeuse et d'éliminer les Cananéens sans que les Bnei Israël aient besoin de faire 7 ans de guerre. Mais pour une certaine raison, Hachem n'a pas voulu faire ça. Il a voulu que l'Eretz Israël soit conquise de façon naturelle, c'est-à-dire par la guerre. Hachem, bien sûr, ou Ish Milchama, il va les faire gagner dans la guerre. Mais il voulait que les Bnei Israël fassent une guerre normale. Un homme doit savoir que s'il gagne la guerre, il ne peut toujours pas dire Kochi asali. C'est mon savoir-faire, ma force qui m'a fait gagner cette guerre. Les Bnei Israël, ils vont, dans le futur, donc, ils vont s'installer en Eretz Israël. Et il dit, j'ai déjà dit qu'en Eretz Israël, il y avait déjà des dévoilements miraculeux. On a vu que les fruits d'Eretz Israël étaient extraordinaires. On avait le Beth Amikdash, dans lequel il y avait tous les jours 10 nissim, 10 miracles. C'est des miracles qui étaient visibles. Comment était-ce possible dans cette situation-là de ne pas faire confiance à Hachem? Mais malgré tout, quand on s'habitue au Nissim, alors ces Nissim deviennent naturels. C'est la nature. Après tant d'années où le clan d'Israël ont mangé de la manne, pour eux, la manne, c'était une nourriture ordinaire. C'était comme nous quand on mange du pain. Donc si les Bnei Israël restent dans cet état d'esprit-là, alors ils n'auront jamais la force de faire confiance à Hachem. Et donc, HaKadosh Baruch Hu a eu besoin de leur montrer sa force, sa puissance, plus encore que ce qu'ils avaient déjà vu, pour les fortifier dans leur confiance en Hachem. Donc, quand ils sont sortis de Mitzrayim, ils ne pouvaient pas voir le Ribbono shel Olam dans une situation de Esther Panim, quand Hachem ne se montre pas visiblement. Bon, ils avaient vu Hachem se montrer en Égypte, évidemment, c'était visible à l'œil nu. Mais il faut que les Bnei Israël apprennent à voir Hachem quand Hachem ne se montre pas ostensiblement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement dans un monde de magie, toute l'Égypte, c'était de la magie. Donc HaKadosh Baruch Hu était obligé à ce moment-là de leur faire des miracles, parce que c'était un monde de miracles. Quand ils ont vu tous ces miracles, ils ont compris que même ce qui leur arrivait, qui semblait arriver de façon naturelle, ça aussi c'était un miracle. Donc ils avaient besoin un renouvellement permanent, de reconnaître que tout ce qui arrivait était toujours fait par Hachem, c'était, bien que ce soit habituel, bien qu'ils y soient habitués, reconnaître que c'était miraculeux, jusqu'à ce qu'ils atteignent ce niveau où on reconnaît que même ce qui nous semble naturel, en fait, c'est aussi la main d'Hachem. C'est ce que dit Ramban. Il n'y a pas de différence en réalité entre le naturel et le miracle. On pourrait dire, le naturel, c'est seulement un miracle auquel on s'est beaucoup habitué. Bon, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Et donc, ils ont dû partir en Eretz Israël. Avec des armes, comme c'est marqué dans le passage, Vechamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Les bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte armés. On fait une dracha sur Chamushim pour dire que il y avait seulement un cinquième qui est sorti, mais Chamushim, ça veut dire armé.
Ça.
Ayu Yireim, parce qu'ils craignaient. Ils craignaient. Parce que d'après les lois de la nature, ils craignaient tous les géants qu'il y avait là-bas.
Jamais, jamais on voit, par exemple, même si on voit des dessins des douze canaux qui ont passé par lesquels ils ont traversé le Yam Souf, Jamais on n'entend parler d'âme, on n'entend parler d'âme, ça c'est de toutes les richesses.
D'où ils ont sorti
C'est
tout
très
ça.
tranquille de dire après, mais c'est la première fois de ma vie, j'ai l'impression que j'entends qu'ils avaient vraiment des
Ça
âmes.
paraît pas. Parce que comment, qui leur a fait ses âmes, qui leur a donné ses âmes, mais
Tout ce qu'on leur a
les
donné, c'est
Égyptiens,
HM.
ils ont
Les
pris.
Égyptiens avaient, ils ont pris.
Oui. Ça me la première chose.
Il y a d'un lac.
Donc, ils les ont pris avec eux aussi. Il y a comme il y avait, quand on a vu, on les avait planqués, descendus
Oui.
de les arbres.
Il y a l'idée à Anak, Ra'in Usham. Les Meraglim, les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont dit, on a vu des géants là-bas. Ils ont été effrayés par les géants. Ces juifs-là qui ils mangent de la manne tous les jours. Ils ont le puits de Myriam à côté d'eux tous les jours. Ils ont des Ananei Kavod, des Ananim qui les protègent de tous les côtés. Oh, on a vu des géants. Et puisque on avait peur, comme on dit les Meraglim, alors Kadosh Baruch Hu ne les a pas fait passer par Erez Plishtim. Kikarov, c'est Kipchuto. Anu regilim lefaresh shaya karov midai. D'habitude, on dit, ouais, c'était trop proche. Du point de vue de trop proche au sens de en nombre de kilomètres. Mais il faut expliquer que quand on dit que c'était trop proche en termes de temps. C'est-à-dire, il n'était pas encore prêt à ce genre d'épreuve. Ils avaient encore besoin de se fortifier en Emouna. Alors, à ce moment-là, les Bnei Israël n'étaient pas impressionnés tellement par les Plishtim. Hachem leur a dit, ben, qu'il allait nous donner la terre d'Israël. Donc voilà, on va la recevoir, on va entrer là-bas et on va s'installer. Ils ne se sont pas posé la question comment on va le faire. Ben, ils devaient encore apprendre qu'il faudra gagner des guerres. Et même si les autres sont venus avec tout leur armement. Malgré tout, le clan Israël va gagner. Le clan Israël va toujours être dans la situation de David devant Goliath. Mais il a fallu quand même que David accepte d'aller faire la guerre contre Goliath. C'est pas que Hachem a réduit Goliath à zéro. Nous ne savons pas de façon certaine comment, par le fait qu'ils vont voir plus de manifestations d'Hachem, ça va les aider à accéder à un niveau plus élevé en confiance en Hachem. Mais ça, c'est clair. Ils avaient encore besoin de les voir pour être plus mamine. Bien qu'on ne sache pas du tout en quoi de voir plus de miracles, ça construit la Emouna. Le Rambam dit au contraire, le Rambam dit, les gens, ils n'ont pas cru du tout en Moshe Rabbeinu à cause des miracles. C'est pas ça qui a créé leur confiance en Moshe. Par exemple, dans le Nes de Chanukah, c'était Rabim Biyad Me'atim, etc. Tmeim Biyad Tehorim, Rishayim Biyad Tzadikim. Donc tout ça, c'était des miracles, mais des miracles qui se sont déroulés comme naturellement. C'est des terroristes qui ont gagné. Au départ, c'était une famille de terroristes. Enfin, ils ont été sûrement qualifiés par les autres de terroristes, par l'establishment. Le Colzman, que tu vois pas le NES de la menorah, tu sais pas du tout que le Ribon Shel Olam est derrière tout ça. Si tu lis uniquement le récit de la guerre, c'est le récit d'une guerre où des gens, une famille s'est révoltée contre l'establishment. Ces gens-là se sont battus comme des lions et ils ont fini par gagner, mais ça leur a coûté très cher. Beaucoup sont morts. Ça coûtait très, très cher. Mais il n'y avait aucune. Voilà, bon, c'est vrai que c'était Rabbi Miat Meatim, mais à la limite, de dire que c'était Rabbi Miat Meatim, etc., c'est quelque chose qu'on dit parce qu'on a vu la menorah, le lest de la menorah. Alors on a mis en évidence que. Il n'y avait aucune chance que ça marche. Et donc c'était miraculeux. Mais bon, sur le terrain, c'est une guerre qui a duré 9 ans, je crois. Et donc, c'est bon, c'est une très très longue guerre qui a coûté très cher, etc. Ils ont fini par gagner. Alors bon, ça peut s'expliquer quasi naturellement. Il y a des gens d'ailleurs qui ont fait de Hanouka quelque chose qui était une victoire militaire. J'ai lu quelque part que à West Point, à l'académie de militaire en Amérique, quand ils ont eu les problèmes de la guérilla contre le Vietnam, ils ont enseigné, ils ont étudié le livre des Maccabim. Oui, les livres des Maccabim dans lesquels il y a une description des batailles dans le détail. Pourquoi? Parce que personne, il n'y avait pas encore d'écrit sur les batailles de ce type-là, qui était une guérilla, puisqu'ils ont commencé, c'est un tout petit groupe de gens. Tamid yesh dvarim hayotzim miseder hateva. Il y a toujours des choses extraordinaires dans la vie. Donc si tu dis que c'est pas si terrible, c'est pas si extraordinaire cette victoire des Hashmonaïm contre les Grecs, enfin contre les. Le Ribbono shel Olam te dira, Loki, ani haiti omed me'achorei kol zeh. Hachem te dira, mais c'est moi qui étais derrière toute cette victoire. Mais quand est-ce que je comment est-ce que Hachem a montré que c'est lui qui était derrière? Il a montré avec le nez de la menorah. S'il n'y a pas le nez de la menorah, alors on va expliquer ça complètement comme une victoire étonnante. Mais bon, le débarquement du 6 juin contre, etc., la victoire de Stalingrad, etc., c'était aussi complètement miraculeux. On s'y attendait pas. L'armée allemande, jusque-là, elle était entrée comme dans du beurre, pratiquement partout. Bon, à compter en heures ou en quelques jours, la guerre contre les Français, contre tous les pays alentours. Tout à coup, ça bloque. Tout à coup, ça ne marche pas. Le clan d'Israël, ils avaient besoin de voir encore plus de miracles de la part d'Hachem pour qu'ils en viennent. C'est après Kriyat Yamsouf que c'est marqué Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Quand est-ce qu'ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe? après la victoire, après la mer, passage de la mer. Ah, il est 10 makot. 10 makot, ça ne les a pas impressionnés suffisamment pour qu'on puisse dire que du coup, ils vont être ma'amin, Bachem ou Moshe Avdo. Ils sont arrivés à comprendre que ce qui est naturel, c'est aussi miraculeux. Tous les matins, nous, on dit Baruch Ata Hashem, Pokeach Ivrim. Baruch Ata Hashem, Amechin Mitzah Degaver. Amoten Laïef. Pourquoi on dit tout ça? Parce que nous devons croire, faire confiance que c'est vraiment comme ça. On prend tout ça comme normal. Comment est-ce qu'on peut convaincre des gens de faire confiance en HM? Bon, s'ils voient que HM fait des miracles, alors peut-être ils vont commencer à réfléchir, comme la Gemara, elle raconte, effectivement, de Rabbi Hanina ben Dossa, etc. Si tu penses que l'huile, quand elle brûle, ça n'est pas un miracle, ce n'est pas un ordre d'Hachem qui fait que l'huile est combustible. Alors que, en fait, de la même manière qu'Hachem ordonne à l'huile de brûler, il pourrait tout aussi bien ordonner au vinaigre de brûler. Nous, on pense exactement le contraire. Si une fois on a vu que le vinaigre pouvait brûler, alors peut-être on pourra comprendre. Ah, que dans ben alors, si c'est comme ça, alors l'huile aussi, c'est Hachem qui fait que ça brûle. Et Bnei Israël n'était pas prêt à ce moment-là. Donc, ils avaient toutes sortes d'explications, avec des guillemets, d'explications. Comme tous les gens qui n'ont pas confiance en Hachem donneront des explications de toutes les situations où, a priori, on devrait reconnaître la présence d'Hachem. Il va te dire, s'il est Kol Yachol, si HaKadosh Baruch Hu, il est vraiment tout-puissant, pourquoi il a fait telle et telle chose? Or, s'il est tout-puissant, alors pourquoi Auschwitz, et pourquoi le 7 octobre, et pourquoi l'Inquisition, etc. Et toi, tu dois discuter avec lui et le convaincre. En vérité, le seul moyen de le convaincre, c'est de lui montrer qu'Hachem ish milchama. Comme ils l'ont dit dans la Shira. Hachem ish milchama, c'est dans la Shira Tayam. C'est après le passage de la mer. Ils ont compris, hein? Nous, on n'a pas fait la guerre contre l'Égypte. Hachem a fait la guerre contre eux. Les Bnei Israël ne se sont pas battus contre les Égyptiens. C'est Hachem qui a fait retomber l'eau sur les Égyptiens, qui les a noyés. Kikarovu, ça veut dire la chose était encore trop proche pour les. C'est trop frais, en quelque sorte, pour qu'on les éprouve. Donc, de les faire passer par là, de devoir aller faire une guerre naturelle. Mais malgré tout, faire confiance que à Hachem qu'il est avec eux, et pour ça, On avait leur, il fallait au moins faire les aider à cela en leur faisant plus de miracles. C'est marqué dans le Tehillim, Shebechol ma sheosifu lirot yoter veyoter nissim bamidbar, ken osifu leorer sfekot. Shafilu bemaaseh ha'meraglim, shaya b'shana ha'shenit, letzeta mi'Mitzrayim, c'est marqué vaynasu oti. C'est Esser Permim. Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles pour les Meraglim. Et eux, ils ont refusé de reconnaître. Au point que Hachem va dire, il va inclure ça, il dit, ça fait déjà 10 fois qu'ils me mettent à l'épreuve. Donc ça veut dire, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut donner aussi du pain? Peut-être que il peut donner seulement de l'eau. De l'eau, il voyait bien qu'ils en avaient. Mais est-ce qu'il peut donner du pain? Mais peut-être il peut faire ça, mais il ne peut faire que ça. Bon, il a quand même une, d'accord, il a une puissance, mais les libertés, elle est limitée. Ils n'ont pas encore vu quelque chose qui emportait le morceau, quoi, quelque part. Quelque chose qui soit une démonstration absolue, à laquelle on ne peut rien opposer. C'est cette Emouna qu'on voulait obtenir d'eux, une confiance absolue, une totale sérénité. C'est pour ça qu'ils avaient encore besoin de tous ces nissim. Ils avaient besoin de la manne. C'est la question, est-ce qu'il peut nous donner du pain? On a de l'eau, oui, mais le pain qui nous dit. Les gens pourraient dire, oui, j'ai vu tout ça, mais c'est quand même pas encore. Je ne suis pas encore complètement convaincu. Et donc, il va falloir vous éduquer avec des nissim jusqu'à ce que vous arriviez à la Madrega, au niveau de Ani Ma'amin Shehu Kol Yachol. D'accord? J'ai confiance, je sais bien qu'il est tout puissant. Il peut tout faire. Il n'y a aucune limite devant lui. Et c'est pour ça que c'est marqué Vayehi, de la chambre chez le Sar. C'est-à-dire, j'aurais montré. Et je leur ai dit, votre sortie d'Égypte, elle était miraculeuse. Mais ça n'était pas suffisant pour vous amener en Eretz Israël par le chemin le plus court. Vous avez encore besoin d'être confronté à des situations qui peuvent s'expliquer naturellement. Et c'est pour ça que les Bnei Israël vont devoir vivre encore pendant de très longues années de façon miraculeuse pour construire cette émouna.
Mais là, on est
Pardon?
avant cette maladie.
Et ça va, ça n'a pas encore marché. Il va avoir encore tous ces miracles, tous ces miracles. Alors, a priori, Akadosh Baruch Hu avait, il leur a proposé en quelque sorte. OK, maintenant on y va. Et maintenant on y va et. Bon, ça veut dire qu'il allait continuer, si on pense qu'ils n'étaient pas complètement mûrs, Il a continué leur éducation, mais en Israël même. Tu peux dire un peu plus fort ce qu'elle a dit, pour que les gens entendent aussi. Quelqu'un peut répéter, ou Claudine, vous pouvez répéter. Quelqu'un peut répéter parce que les gens, ils n'ont rien compris. Et moi, je ne peux pas répéter parce que je n'ai pas tout compris non plus. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas suffisamment entendu. Parler plus fort. On n'a pas encore de micro. On aura un jour un micro.
Les Israéliens ne recherchent pas.
Alors, il faut parler suffisamment fort.
L'Israël, c'est pas ce que tu traduis, hein, c'est une autre question.
Ah
Excuse-moi.
non,
Ah non.
attendez, il faut quand même qu'on réponde. Mais je ne peux pas répondre, je n'ai pas compris. C'est clair que la construction de la confiance en Hachem, elle passe par, disons, je dirais presque de l'imagination. Parce que si on prend ces dernières choses, effectivement, de la façon dont il fallait lire, Agadol Agibor Véanora, ça a un sens, le sens que Monsieur Tout le Monde, Madame Tout le Monde, pardon, que Madame Tout le Monde dira si on l'interroge dans la rue, qu'est-ce que veut dire Gadol, Gibor, Nora? Elle va te donner une traduction. Si on prend cette traduction-là, alors les prophètes ont dit, enfin, il y a des gens qui ont, à un certain moment, ils ont dit non, on ne peut pas continuer de le dire. Ce n'est pas vrai. C'est faux. On ne peut pas dire qu'il est Gadol, alors Gibor, Nora, alors que nous sommes en galoute, on est massacrés, etc. Il faut arrêter de dire, ça n'a pas de sens. Donc il faut l'imagination. Pour dire pas du tout. Le Gadol Gibor Venora, surtout si tu veux l'appliquer à Hachem, alors utilise tout le spectre en quelque sorte de toutes les façons dont on peut dire Gadol Gibor Venora. Et on peut dire Gadol Gibor Venora pas du tout parce que ça rayonne de façon habituelle avec, je sais pas, une armada gigantesque. Pas du tout. Ça peut être le fait, si tu regardes bien, c'est quoi? C'est le chasseur, il a l'oiseau dans la main. Il n'y a rien qui l'empêche de fermer la main. Ben si, justement, il ne peut pas fermer la main. Donc il est tout puissant. Il a complètement l'oiseau dans les mains. Ou l'autre image, c'est un agneau. Il est entouré par 70 loups qui sont en train de lui bouffer la laine sur le dos. Pourquoi ils ne le mangent pas complètement? Ils ne peuvent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement inexplicable, mais qui, effectivement, peut s'écrire, peut se dire en termes de Gadol Gibor Venora. Mais il fallait l'imagination pour penser que Gadol Gibor Venora, ce n'est pas obligatoirement une armada. Ça peut être aussi une puissance, une force. Que simplement la grandeur, c'est que tu comprends rien du tout. D'accord? Tu vois la puissance de la chose? Le bonhomme, il a l'oiseau dans la main. Il sait rien du tout de fermer la main, le poing. Non, il ne peut pas la fermer. Mais à tous les niveaux, ça arrive. L'oleinu, ça peut arriver à quelqu'un. Voilà, la main, et ben voilà, il peut. Tu peux la fermer jusque, je sais pas, 10% ou 20%, mais tu peux pas plus. Et tu comprends pas pourquoi. On sait pas pourquoi. On peut pas. Il y a des choses, voilà, je peux supporter ça, mais ça, je peux pas le supporter. Pourquoi? Pas, vous voyez, donc, tout ça peut se traduire avec de l'imagination. Ça peut être la traduction de Gadol Gibor Venora. Et c'est ça que les Anshei Knesset HaGdola qui ont introduit ça dans la prière, ils ont dit non, on peut le dire, mais il faut penser avec cette imagination en réalité. C'est-à-dire, d'une certaine manière, les prophètes qui n'ont pas fait de travail sur la langue, disons, ils ont arrêté de le dire parce qu'ils prenaient les mots tels qu'ils étaient. Il a fallu le génie des Hamsek Nessak Dola qui devait être extrêmement fort dans le langage parce que ce sont ces gens-là qui ont fixé la tfila pour l'éternité. Vous imaginez, ces gens-là, ils ont décidé de la forme de la Amida, la Shmoneh Esrei. Voilà, ils ont, en gros, c'est ça. Tout le monde, ça fait des siècles qu'on utilise la même prière, 3 fois par jour, dans toutes les situations, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, quand on était enfant, quand on est devenu adulte, quand on est un vieillard, quand on est un sadique, quand on est moins sadique, etc. Tout le monde prie de la même manière tout le temps. C'est d'un génie incroyable. Parce que ces mots, c'est pas des mots magiques. C'est des mots qui ont un sens. Et c'est sûr que certains mots, je les comprends aujourd'hui d'une manière telle, je suis certain que ces mêmes mots, dans certaines générations, il y a bien longtemps, les mots n'avaient pas exactement le même sens. Mais c'était suffisant, c'était adéquat aussi pour la façon dont ils voyaient le monde. Bon, et voilà, c'était ces mots-là, ces mots avec les lettres, avec le génie enfin, ce que représentent les lettres, avec la valeur numérique, avec tout le sens, toute l'épaisseur. Tout l'hypertexte, en vérité, que ça représente, tout ça a été inventé par les Hamsek Nessak Dola. Donc, il faut être capable. Alors, ça, de voir certains nissim, là où on voit rien, quoi. Si tu regardes globalement, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël sont en galoute. Où est la grandeur d'Hachem? Où est la grandeur d'Hachem? Ils sont en galoute. Tu connais un autre peuple qui était en galoute et qui a survécu? On connaît un autre? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de peuple qui, comme tel, a été en galoute. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est en galoute. Et on a survécu. On a été dans toutes sortes de pays. Confronté à toutes sortes de civilisations, à toutes sortes d'époques. C'est quoi ça? Hachem nous a mis dans. Il a fait de nous un peuple qui peut supporter, si vous voulez, on a supporté les hautes températures, les basses températures, l'humidité, la sécheresse, tout ça. Alors, ce sont des nissim qu'il faut apprendre à voir comme des nissim. Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est pas. Ben, c'est tout, les Bnei Israël, ils souffrent. Alors, bien sûr que, dans certaines circonstances, on comprend un peu quel était le Ness. Les choses qui nous paraissent, qui étaient extrêmement douloureuses. Insupportable. Mais il y avait quelque chose. Alors, bien entendu, on ne comprend pas tout. Et des fois, on ne comprend rien. Mais des fois, on comprend un petit peu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça se discute. Mais des fois, il faut l'imagination pour arriver à comprendre quel rôle ça. Pourquoi c'était bien? Pourquoi cette chose était bien? L'interpréter de telle sorte. Ça nous fortifie notre émouna. Alors, effectivement, on a eu besoin. Alors, maintenant, il n'a pas dit exactement pourquoi ces miracles-là, pourquoi les miracles de la mer, par exemple, étaient-ils plus efficaces pour construire la émouna que les miracles des makot? Ou bien est-ce que c'est simplement que les miracles de la mer venaient après le travail fait par les Makot? Les Makot nous avaient déjà un peu travaillé, Et on avait encore besoin de certains coups de pouce qui ont été donnés par le passage de la mer. Mais on n'avait jamais vu Hachem Milchama. On a vu Hachem tout-puissant, où il a montré sa puissance et etc., sur terre, sur mer et dans les airs. D'accord? Et puis ensuite, il a montré Makat Bechorot. Un truc incroyable. Et puis, il nous a sortis d'Égypte. Et sur cette sortie d'Égypte, on ne peut rien dire du tout, parce que, comme on dit dans la Haggadah, Akadosh Baruch Hu dit, la sortie d'Égypte, c'est rien de ce que tu peux imaginer. Bon. Ça n'est pas un changement de dynastie, ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas la décolonisation, ce n'est pas tout ce que tu peux imaginer. Et même ce que tu ne peux pas imaginer, même s'il y a une nouvelle forme de libération dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 100 ans, ce ne sera toujours pas ça. Mais quoi? Akadosh Baruch Hu bichvodo batsmo. Ce qui est une façon de dire, on n'en sait rien. On ne peut pas expliquer, ça n'a pas de sens. On ne peut pas sortir un peuple en quelques heures, on sortir un peuple d'être. En plus, il fallait la kachlo. Goy mi kerev goy. Il n'y avait pas un ghetto. Donc, il fallait prendre le ghetto et le sortir. Les Bnei Israël, ils étaient en plein milieu des Égyptiens. D'accord? Ceux qui lisent, le Gaon dit qu'il ne faut pas lire comme ça, mais ceux qui lisent que Hachem a dit, il faut emprunter auprès de Réuta. Chaque femme doit emprunter auprès de son amie. Et les gens qui lernent standard, ils disent que l'or et l'argent, on l'a emprunté chez les Égyptiens. Et l'Égyptien est présenté comme quoi? Comme son ami. D'accord? Ils étaient amis. C'était la voisine. La voisine avec laquelle, à ce moment-là, ils étaient amis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que ce n'est pas à cause de Moshe qu'il souffrait. C'est à cause de l'arrogance et la folie de Paro. Alors, il était en bon terme avec les Bnei Israël. Mais les Bnei Israël, et eux, ils abdiquaient en plein milieu. Donc, il a fallu extirper les Bnei Israël de ce mélange dans lequel ils étaient. Ils étaient esclaves, c'est vrai. Mais de toute manière, c'est un esclavage particulier parce que ces esclaves, ils avaient des troupeaux à Goshen. Donc, ils étaient riches. D'accord? Donc, ça veut dire, vous voyez que les esclaves grecs ou en Amérique, etc., avant Lincoln, ils avaient des richesses, ils avaient des troupeaux à eux, etc. Ils devaient travailler de façon inhumaine. Mais bon, il vivait au milieu des Égyptiens.
Tu nous as
Pardon?
dit que tu
Je l'avais dit déjà la semaine
nous
dernière.
dit que très actuel ce que tu nous dis.
Pardon?
J'ai l'impression que c'est très actuel.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que c'est. Il a fait un travail que personne n'a jamais entendu ça. Cette façon de présenter les choses.
Je sais pas
Hmm? Ah,
le
ça fait déjà plus maintenant. Ouais. C'est récent, en tout cas. Les Bnei Israël, pour dire encore juste une chose avant qu'on s'arrête, les Bnei Israël se trouvent devant la mer. Les Égyptiens derrière, à gauche, à droite, le désert, et devant eux, la mer. coincé, complètement perdu. Et là, Hachem va faire un énorme miracle. Il va faire bouger les nuées, etc., pour les protéger et tout. Et il va dire à Moshe, dis-leur d'avancer. Avancer, ça veut dire entrer dans l'eau. La mer, elle ne va pas s'ouvrir avant que vous entriez dans l'eau. C'est marqué dans le Passouk. Voyomer Hachem el Moshe, Matitsak Elai. Pourquoi tu cries vers moi? D'abord, Ben Israël, Ben Issaou. Qui au Bnei Israël, qu'ils avancent. Rachid dit, Matitsak Elai, Lamadnu Shaya Moshe, Omed ou Mitpalel. Moshe lui-même, il s'était mis à prier. Amarle à Kadosh Baruchou, Lo et ata la'arich b'tfila. Israël ne tunim b'tsara. Je ne comprends pas du tout. Ce n'est pas le moment de prier. Israël est en danger. Il est dans un sale état. Ce n'est pas le moment de prier. Mais comme dira Volbé, Adraba, quand Israël est dans Betsara, c'est à ce moment-là, Dafka, qu'il faut prier. C'est marqué que à Kol Sara chez l'Otavo, il faut prier. Pourquoi Hachem lui dit, c'est pas le moment de prier? On trouve la même chose chez Myriam. Quand Myriam a été frappée de lèpre à cause du Lashon Hara, Moshe Rabbeinu a fait une tfila super courte. Kel na refa na la. Hachem, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît. Pourquoi? Shelo yomru achoto nimtzet batzara ve'u omed umarir bitfila. Que les gens disent pas, sa sœur elle souffre, et lui, il fait des longues prières. C'est quoi ça? Maïnian. A priori, c'est comme ça qu'il faut, c'est à ce moment-là qu'il faut prier, non? L'explication, c'est que dans la tfila, il y a deux aspects. Il y a la tfila elle-même, qui doit monter, s'approcher d'Hachem. Ça, c'est pour obtenir un certain résultat. Mais il y a aussi une prière qui n'est pas pour obtenir un résultat, simplement pour élever. Pour s'élever. Parce que Tfila, c'est en elle-même un certain niveau. C'est une élévation. Pour elle-même. Le fait de se tenir devant Hachem, et donc de ressentir de la sorte, ressentir une proximité avec Hachem, c'est comme ça que le Nefesh HaRaim l'explique. Et quand on prie, de cette manière-là, ça s'appelle l'arich bitfila, c'est-à-dire passer trop de temps à la prière. Hein? L'arich, c'est d'allonger la prière, mais donc ça s'appelle pourquoi tu es arich bitfila. Mais il y a la tfila, il faut prier. Pour un but bien précis. Parce qu'on veut prier pour vivre, pour demander de l'aide. Pas pour s'élever, pour se rapprocher d'Hachem. On lui demande un service. Toi qui peux tout. La Gemara, elle dit. Quand Chazal ont fabriqué une tfila qui est courte, tu n'as pas le droit d'allonger. Quand ils ont fait une fila qui est longue, tu n'as pas le droit de raccourcir. Justement parce que les prières, la prière, elle a ces deux aspects. Donc on voit l'explication. C'est ce qu'on appelle bracha aruka, une bénédiction longue. Ça fait partie de la tefila grâce à laquelle on s'élève. Et une bracha courte, c'est une prière dans laquelle on demande quelque chose. C'est pour ça que quand Chazal on dit qu'il fallait être maarir, alors là, le fait que la prière dure, c'est pas que ça veut dire qu'on n'est pas en train de prier pour quelque chose de précis. On est en train de prier pour s'élever, pour se rapprocher d'Hachem. Dans la bracha de Yotzer Or, la bracha, là-bas, on s'élève. D'accord, ça veut dire, il y a les Orotolam, les Malachim, tout le début de la tfila de Yotzer Or. C'est, on parle de ce qui se passe dans les hauteurs, etc. Jusqu'à Ulvado, Poel, Gvurot, etc. Il n'y a aucune demande dans cette partie-là de la prière. Dans la bénédiction, les premières bénédictions de la Shmonesré, dans Avot, par exemple, il y a seulement. Il y a seulement Kabbalat Olma Hutshamayim quelque part. Il n'y a pas de bakasha du tout. C'est une bracha qui est longue, justement, parce que c'est une prière dans laquelle on veut s'approcher d'Hachem. Et donc, l'explication de ce qui s'est passé au Sina, qui s'est passé au pied de. Non, pardon, sur le bord de la mer. C'est quand on est dans une Sahara, donc on demande à Hachem, sors-moi de là. Alors évidemment, c'est une demande. Dans une demande, ça doit être court. Quand, voilà. Mais ce n'est pas le moment de faire une prière pour s'élever. C'est pas, tu feras la prière pour t'élever après, quand tu auras passé la mer. Mon cher Rabbeinu, lui, à ce moment-là, il a été marir bitfila. C'est-à-dire, en fait, il voulait à ce moment-là, aussi, à ce moment-là, il voulait s'élever, se rapprocher d'Hachem. Hachem lui a dit, quand les bnei Israël sont en difficulté, c'est pas un moment pour s'élever. Maintenant, il faut prier pour sortir de cette situation-là. Et donc, c'est une bakasha courte qu'il faut dire. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ça, c'est important parce que ça nous dit comment on doit prier quand on prie pour un malade. Alors, d'après cette explication-là, c'est pas bien de faire une longue prière. Il faut demander tachlit, quoi. À la limite, Baruch atah Hashem, je ne sais pas, refais cholam en Israël. Enfin, oui, guéris-le, guéris-la. Voilà, on s'arrête là. Pardon? Je me laisserai, oui, mais pas dans la vote. Pas dans les trois premières, il n'y a que des louanges. Oui.
Parce que quand je vois pas si c'est distribué, Yoshev Seterelian Bessel Shalai Remarque la de Noy, Marcy, Misulati, Raif Tarabou, Kiwatsilaham Ipar Yakush, Medeveravos, Vevraso Yaserlar, Metachat Kanafav Tirtse, Tina Vesokeha Mito, Dosi Rami Paralabna, Mirasio Friomam, Medeverbaofel Yalor, Miketavia Shutsorai, Ipon Misid.